vous écoutez Les Sons de Mars, enregistré par Perseverance, le rover de Mars. Perseverance accomplit sa mission à 400 millions de kilomètres de la Terre, à des températures allant jusqu'à moins 153 degrés Celsius, et fonctionne parfaitement grâce à l'ingénierie liquide de Castrol dans ses veines et ses mécanismes. Castrol est fier d'avoir été choisi par la NASA pour travailler dans l'espace depuis plus de 60 ans sur des projets comme la mission Apollo ou la Station spatiale internationale. Et tout ce que nous faisons dans l'espace est intégré dans tout ce que nous faisons sur Terre. Dans cette série de podcasts, nous rencontrons des personnes et leurs machines qui travaillent dans les conditions les plus extrêmes de notre planète, sur Terre, en mer et dans les airs. Dans cet épisode, nous allons entendre les histoires uniques de deux astronautes dont la détermination à explorer l'univers les a propulsés dans l'un des environnements les plus extrêmes.
En tant qu'astronautes vivant et travaillant dans l'espace, nous ne sommes que la petite partie visible d'un énorme iceberg mondial qui travaille avec nous pour résoudre tous les problèmes ou défis que nous rencontrons.
En 1969, je n'étais qu'un enfant et j'ai vu deux personnes marcher sur la Lune. J'ai un peu extrapolé et pensé, waouh, si en 69 on envoie deux personnes sur la Lune, en 79 on enverra deux personnes sur Mars.
Tu sais, beaucoup de gens ont des opinions très fortes quand ils parlent d'exploration de l'espace. Ils disent, nous ne devrions envoyer que des robots. Ou les robots sont inutiles, on doit envoyer des humains. Et la bonne réponse, c'est qu'on a besoin des deux, non? Parce que des robots, on sait tous qu'il y en a plusieurs sur Mars en ce moment. Donc apprenons-en plus sur cette planète avant d'y envoyer des gens. Before we send people
there. Je suis Dr. Sandra Magnus, ancienne astronaute de la NASA et professionnelle de l'aérospatiale de longue date. J'ai voulu être astronaute dès mon enfance, vers 11 ou 12 ans. Je suis devenue astronaute en 1996. C'était exactement comme je l'imaginais, voire même plus. La formation n'était pas seulement technique, j'ai également appris la photographie et un peu la médecine d'urgence. J'ai appris à piloter un avion à réaction et j'étais née pour faire ça.
Je suis le Dr. Robert Sirsk et je suis astronaute. J'ai eu une superbe opportunité il y a quelques années de voler sur deux missions spatiales en tant que représentant du Canada. La première était une mission de 17 jours à bord de la navette spatiale Columbia. Et puis, plus récemment, une expédition de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale avec des coéquipiers internationaux. La Station spatiale n'existerait pas si la robotique canadienne n'était pas là pour contribuer à l'assemblage et à l'entretien de la station. J'ai grandi dans les années 1960 et 1970. J'allais à la bibliothèque de l'école chaque fois que je le pouvais pour lire tous les magazines qui avaient des articles sur la dernière mission. Je connaissais les vies, les carrières de tous les astronautes d'Apollo et des cosmonautes russes. En 1961, Youri Gagarin était le premier être humain à voler dans l'espace. Et seulement 8 ans plus tard, 2 personnes marchaient sur la Lune. C'était époustouflant. Les vols spatiaux auxquels j'ai participé ont été difficiles. Ils m'ont poussé jusqu'à mes limites physiques, mentales et émotionnelles. Ce câlin que tu fais à chacun de tes enfants et à ta femme, ça pourrait être le dernier. Pour minimiser le risque, tu dois te concentrer sur la tâche. Dans les premières heures, sur la rampe de lancement. Le lancement est risqué. La rentrée est risquée aussi. Les astronautes ont une compétence que nous appelons compartimentation. Nous nous concentrons vraiment sur la tâche en cours. On a des choses à faire pendant le lancement. On doit surveiller des systèmes, et si on voit un dysfonctionnement ou un événement imprévu, on a quelques secondes pour agir afin de sauver le vaisseau spatial, la mission et nos vies. Donc on ne peut vraiment pas penser à la famille et aux amis.
On est juste allongé là, tu sais, et on attend, on attend. H-10 minutes. Les choses commencent vraiment à s'agiter. Le temps s'accélère. On ferme et on verrouille nos visières. On écoute à travers nos casques, mais on peut aussi se parler via la radio.
À 9 minutes, on sort de ce qu'on appelle un hold. On nous donne le feu vert pour le lancement et on arrête de papoter. On a ce qu'on appelle un cockpit stérile, donc les conversations deviennent très succinctes. 6 secondes avant le décollage, les 3 moteurs principaux de la navette s'allument. Tu commences à sentir la créature prendre vie. À 3 secondes, les 2 propulseurs de fusée solide s'allument, et à 0, les 8 charges explosives qui tiennent la navette à la rampe de lancement explosent. Ça fait 2h30 que tu es assis sur le dos et tout d'un coup, bam, cette force te soulève. Tu sais vraiment que tu pars. Les 2 premières minutes sont très bruyantes, très puissantes, à cause des propulseurs de fusée solide. À 2 minutes, on les lâche et le voyage est très tranquille. C'est comme conduire une Rolls-Royce.
On peut ouvrir nos visières. Mais environ 1 minute avant la coupure du moteur principal, on commence à sentir 3G dans notre poitrine. T'es collé à ton siège et tu dois parler comme ça pour expulser l'air de tes poumons.
Et tu as l'impression qu'il y a 3 personnes assises sur ta poitrine. Tu dois penser à élargir ta cage thoracique et faire entrer assez d'air dans tes poumons. Ensuite, à 8 minutes et demie, on est dans l'espace et on passe de 3G à 0G en une fraction de seconde. Nos membres sont projetés vers l'avant lors de la décélération. On défait notre harnais et on flotte dans le vaisseau comme Superman.
J'ai lâché ma liste de contrôle et elle flottait là devant moi. Et j'ai ri car c'était incroyable. Quand la navette approche de la station spatiale, on voit comme un tout petit point de lumière au loin, comme une grande étoile. Et plus on se rapproche, plus on commence à distinguer certaines caractéristiques. En contraste avec l'obscurité de l'espace derrière, tu commences à voir les panneaux solaires. Quand tu te rapproches et que tu vois ce bâtiment gigantesque dans l'espace dans lequel tu vas vivre ou que tu vas visiter, waouh! C'est un témoignage de ce que les humains peuvent faire quand nous décidons vraiment de faire quelque chose. Vivre là-bas est une expérience incroyable. Il y a des centres de contrôle partout dans le monde. Il y en a un à Moscou, un en Allemagne, un à Tokyo, 2 aux États-Unis. Notre emploi du temps est géré par un groupe de travail international qui a appris qu'à la station spatiale, l'emploi du temps doit être flexible, car on ne sait jamais ce qui va se casser ou ce qui va mal se passer. Ça peut être n'importe quoi, de la réparation à la robotique, en passant par les marches spatiales et les expériences scientifiques, au comptage de sous-vêtements que nous avons sur la station spatiale. Vivre dans l'espace, c'est trouver un système fermé autosuffisant. C'est pourquoi une partie de la technologie que nous utilisons dans l'espace aidera la Terre à y parvenir. La mission de notre équipage était de préparer la station spatiale pour un système de régénération de l'eau capable de transformer l'urine et d'autres types d'eau sale en eau potable. Le système de régénération de l'eau n'a pas fonctionné immédiatement et on a fait beaucoup de tests. On est entraîné pour ça. On est entraîné à régler ce genre de choses. En devenant astronaute, j'ai dû apprendre à utiliser cette partie de mon cerveau. Tout le monde ne peut pas retourner son cerveau comme ça. Les ingénieurs ont tendance à être des gens de type A. Ils font des choses et comprennent comment les choses fonctionnent. Il y a un petit facteur de contrôle. Et donc, les astronautes, on est en quelque sorte le type A du type A. On doit être vraiment discipliné et en mesure de compartimenter et de faire plusieurs choses en même temps. En tant qu'opératrice, tu dois prendre tout ce que tu as appris pour penser comme une ingénieure et le retourner. Par exemple, je pilote le T-38. On est dans les airs à quelques centaines de kilomètres à l'heure. Je regarde mes instruments, j'ai mis mon casque pour atténuer le bruit. Peut-être qu'on parle dans la radio. Je regarde la navigation, le guidage, je contrôle l'avion. Si telle voyance s'allume, il y a peut-être un feu dans le moteur. La chose la plus importante que je veux savoir, c'est s'il y a vraiment un feu et quelles sont les étapes immédiates pour rendre la situation sûre. Si je suis une ingénieure, et que je ne pense qu'en tant que tel, je me mets immédiatement à réfléchir. Je me demande quel thermocouple a causé l'incendie. En tant qu'opératrice, je m'en fiche.
Je veux savoir si c'est vrai ou pas, parce que si c'est vrai, je dois agir maintenant.
Je pense que les astronautes ont peur. Tu vas rire, mais je pense que notre plus grande peur est la peur de foirer. Et elle est là tous les jours. On veut vraiment atteindre un niveau d'excellence. Et faire une erreur peut nous dévaster. Si je fais une erreur en orbite, je vais être déprimé pendant un jour ou deux. Je dois me ressaisir rapidement pour avancer et bien faire la prochaine fois.
Ce que les gens sont capables de faire, mais pas les robots, c'est réagir en temps réel à une situation. Les rovers sont programmés. Ils peuvent être en mission d'un point A à un point B pour faire X et passer devant quelque chose de super intéressant que nous devrions comprendre et analyser, mais ne jamais le voir, parce que ce n'est pas pour ça qu'ils ont été programmés. Un humain qui regarde à sa gauche et voit un truc fait « Ah !» Je ne sais pas où nous mènerons l'IA et l'apprentissage automatique, mais en ce moment, on a besoin des deux. Il y a vraiment une synergie entre les humains et les robots allant sur les différentes missions et travaillant même ensemble. C'est la clé d'une exploration efficace et vraiment productive.
L'exploration de l'espace s'accomplit grâce aux robots et aux astronautes. À bord de la Station spatiale internationale, nous avons aussi un robot. Il s'appelle le Canadarm. C'est comme un bras humain. Il a une épaule, un coude, un poignet et une main. Tous les modules, tous les travaux de treillis, tous les radiateurs thermiques, tous les panneaux solaires ont été installés par le Canadarm 2 sur la Station spatiale. Pour moi, la tâche la plus difficile, c'est quand nous avons effectué une nouvelle tâche qui n'avait jamais été faite auparavant sur la Station spatiale internationale. Il a fallu utiliser le bras robotisé de 17 mètres de long pour attraper un vaisseau spatial qui planait juste en dessous de la station, puis l'amarrer à un point d'accostage en bas de la station. Ce véhicule cargo était tout neuf. Il était japonais. C'était son premier vol. Les véhicules cargo précédents s'amarraient tout seuls en mode automatique grâce à un radar ou un laser pour s'arrimer à un port d'amarrage. Pour faire le grappin, on devait désactiver le système de contrôle d'attitude du véhicule cargo. Et dès que tu fais ça, il commence à s'éloigner tout doucement de la station. On devait faire ça vite. On devait le faire en 90 secondes. On suait à grosses gouttes. On a réussi. Mais ça m'a amené à connaître mes limites sur ce sujet. Les astronautes ont le meilleur boulot du monde. Mais il y a toujours un prix à payer pour réaliser son rêve. Quand je suis parti la deuxième fois, mon plus jeune fils avait 13 ans. Et quand je suis revenu, sa voix avait baissé d'une octave. C'était assez surprenant pour moi. La première fois qu'il m'a parlé, c'était comme si je parlais avec une autre personne. Ma femme vous dirait que je suis une personne différente après mes deux vols. En fait, elle vous dirait que je ne suis jamais rentré de mon deuxième vol. La première façon dont le vol spatial change une personne, c'est l'appréciation phénoménale de la beauté, mais aussi de la fragilité de la planète sur laquelle nous vivons.
Une nuit, tout le monde dormait et on est allé à la fenêtre du labo. C'est une super fenêtre pour voir la Terre. Et on a passé une heure et demie à écouter de la musique et à regarder le monde tourner. Ça prend 90 minutes pour faire le tour du monde. Donc, une révolution complète pour voir à quel point notre atmosphère est fine. Si fine qu'on pourrait lui souffler dessus et elle s'envolerait dans l'univers comme lorsque l'on souffle sur un pissenlit. C'est beau et terriblement fragile à la fois. Voir la planète comme un système fermé, une entité où tout le monde vit et comprendre de ses propres yeux que nous sommes tous connectés, c'était si inspirant. En tant qu'astronautes vivant et travaillant dans l'espace, nous ne sommes que la petite partie visible d'un énorme iceberg mondial. C'est un programme réunissant 16 pays, avec des langues, systèmes politiques, agendas et types d'approches techniques différents, les systèmes de mesure impériale et métriques, et on a fait en sorte que ça marche. Et c'est là, au-dessus de nos têtes, tous les jours, un témoignage de ce que nous pouvons faire, des choses que nous pouvons accomplir en tant qu'humains quand nous travaillons ensemble. C'est l'attrait de l'inconnu, non? Ça peut être aussi simple que de goûter un nouveau plat, rencontrer une nouvelle personne, lire un nouveau livre, visiter une nouvelle ville. Tout ça, ce sont des expressions d'exploration. C'est le fait de ne pas savoir ce qu'il y a au coin de la rue, ni ce qui va arriver. À la base de tout, il y a le changement. La vie, c'est le changement. On doit tous apprendre à embrasser notre explorateur intérieur. Ne pas laisser la peur nous empêcher de faire des choses qui nous font grandir en tant qu'êtres humains. Et laisser s'exprimer notre curiosité pour suivre notre passion et nos intérêts.
Il y a plusieurs appendices mobiles à bord d'une station spatiale. Le bras robotisé du Canadarm, par exemple. Mais aussi les panneaux solaires qui doivent toujours être dirigés vers le soleil. Des radiateurs thermiques qui doivent être tournés vers l'espace profond. Et une antenne qui doit être dirigée vers l'antenne au sol. Tout ça, ce sont des pièces mobiles, des appendices mobiles. Et leur travail est rendu possible grâce à des lubrifiants qui leur permettent de continuer à tourner sans interruption.
Je suis Jennifer Campbell, chargée de clientèle nationale. La relation entre Castrol et la NASA remonte à il y a près de 60 ans, lors des missions Apollo. Nous avons participé à toutes les missions de navette, la Station spatiale internationale, le télescope Hubble, ainsi que tous les robots de Mars. Sur la Station spatiale internationale, les lubrifiants Castrol sont principalement utilisés à l'extérieur. Le Breakout 602EF est utilisé pour l'articulation de rotation solaire alpha et également pour lubrifier les mécanismes du Canadarm. Au fil des années, de par notre héritage et le fait qu'il est prouvé que les lubrifiants Breakout et Breakout fonctionnent dans les applications spatiales, nous avons poursuivi notre relation avec la NASA lors des missions Apollo, du programme de navette spatiale ou des robots de Mars. L'humain s'aventurant toujours plus loin de notre planète, nous espérons collaborer davantage à l'avenir.
Donc merci à Castrol de participer à l'exploration spatiale humaine. Sans lubrifiant, de nombreux systèmes à bord d'un vaisseau spatial ne fonctionneraient pas. Alors merci.
Vous écoutez la série de podcasts Sur Mars de Castrol. Tout ce que nous faisons dans l'espace est intégré dans tout ce que nous faisons sur Terre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur castrol.com/onmars.